Bonsoir et bienvenue à la tribune de la presse de ce vendredi 23 mai 2008, au cours de laquelle nous discuterons de trois thèmes: le verdict sur le procès de notre confrère Serge Maïché, l'élection du porte-parole de l'opposition, enfin l'enquête parlementaire sur la spoliation ou détournement à des fins privées des terrains et maisons de l'État. Pour en parler, trois confrères sont là: Bella Mbouyi, directeur général d'Africa TV, une chaîne de radio-télévision émettant de Kinshasa, Albert Omba du journal Numérica, paraissant à Kinshasa mais aussi journaliste au sein de Tropicana FM qui émet depuis Kinshasa également, et depuis Guémena dans la province de l'Équateur, intervient Christin Malula, directeur de Radio Liberté Guémena et de Canal Congo Télévision Guémena, toujours dans la province de l'Équateur. Le verdict du procès de notre confrère Serge Maïché a été rendu mercredi dernier à Bukavu, Sud Kivu. Alain Moulimbi et Serge Mouima, les deux présumés commanditaires, sont acquittés, alors que trois autres prévenus, dont Freddy Bissimwa et Masakila Rwezangabo, sont condamnés à mort, comme c'était le cas au premier degré. La Cour a aussi prononcé d'autres peines à l'encontre d'autres prévenus de cette affaire. Dieudonné Bagaloua, notre confrère, a suivi ce procès sur place à Bukavu pour nous et nous en fait vivre l'ambiance.
Pour le prévenu Serge Mouima Amin, pour le prévenu Alain Moulimbi Wassama, la Cour déclare non coupable d'association de malfaiteurs liée à l'assassinat de Serge Mouima.
Des cris de joie ont éclaté dans la salle d'audience de la Cour militaire quand la sentence est tombée pour l'acquittement des deux amis de Serge Maïché et témoins de sa mort. Les amis et la famille ont exprimé cette satisfaction en embrassant les deux amis à l'issue du procès. Écoutez, Maître Jean-Claude Moubalama, leur avocat.
La Cour a bien analysé l'infraction d'association de malfaiteurs qui a été libellée contre mes clients et a démontré que cette infraction n'existait pas. Donc, à ce point de vue, il n'y a aucun doute. C'est une évidence que Serge et Alain ne sont ni de près ni de loin impliqués dans ces dossiers.
Du côté des condamnés à mort, la défense a exprimé son insatisfaction. Maître Toubac avait amené cette affaire en cassation au motif que toutes les pistes n'ont pas été explorées et que le doute persiste.
La Cour n'a jamais approuvé en quoi elle se déclarerait vraiment suffisamment éclairée dans cette affaire. Non seulement la balistique n'a pas été faite, mais aussi la piste militaire n'a pas été examinée et même dans sa motivation, elle n'a pas vraiment montré sur quoi elle pouvait se fonder pour condamner les prévenus. Nous croyons que c'est une décision de la Cour, mais entre-temps, nous allons user de toutes les voies de recours qui nous sont encore ouvertes pour faire casser cet arrêt.
Du côté des observateurs de ce procès, certains ont exprimé leur satisfaction de voir enfin un verdict dans cette affaire. Mais les voix sont encore nombreuses qui déplorent des irrégularités dans ce procès et constatent que le doute persiste au sujet des vrais mobiles d'assassinat de journalistes. Dernier coup de théâtre de ce procès, un troisième condamné, Bissimwa Sikitu Patien, prévenu dont il n'avait jamais été question jusque-là, est condamné à mort pour association de malfaiteurs, même s'il n'a jamais mis les pieds sur les lieux du crime. Bukavu, Dieudonné Bagaloua, Radio Kapi.
Avant de suivre d'autres réactions sur ce verdict prononcé mercredi dernier par la Cour militaire de Bukavu, voici un bref rappel des faits, toujours avec notre confrère Dieudonné Bagaloua.
Le 13 juin 2007, dans la soirée, le journaliste de Radio Kapi, Serge Maïché, était abattu dans l'avenue Sayo, en pleine ville de Bukavu. Le procès commencé immédiatement connaîtra de multiples rebondissements. Le 29 juin, on arrête Freddy Bissimwa et Masakila Rwezangabo en le présentant désormais comme les principaux suspects de cette affaire. Très vite, ils vont impliquer Alain Moulimbi et Serge Mouima, les deux amis de Serge présents à ses côtés le soir du drame. Accusés d'être les commanditaires du meurtre, ils seront condamnés à mort fin août 2007 comme leurs deux soi-disant complices à l'issue d'un procès au premier degré dont les conclusions et le déroulement ont été très commentés et critiqués par de nombreux observateurs nationaux et internationaux. Coup de théâtre le 8 septembre 2007, dans une lettre écrite de leur prison, Masakila et Freddy reviennent sur leurs aveux innocentes ceux qu'ils avaient contribué à faire condamner. Le 20 février dernier, après plusieurs reports, le procès en appel commence avec quatre accusés principaux qui désormais plaident non coupables. À quelques jours du premier anniversaire de la disparition de Serge Maïché, l'appel se termine donc aujourd'hui avec deux acquittements et trois condamnations à mort, mais toujours dans une ambiance électrique. Ce procès a en effet de nouveau été très suivi et critiqué par les organisations de défense des droits humains qui n'ont pas cessé d'en relever et dénoncer les irrégularités. Dieudonné Bagalois, Bukavu, Radio Okapi.
Merci beaucoup Dieudonné Bagalois. Au chapitre des réactions, la haut commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Madame Louise Arbour et Monsieur Alain Doss, représentant spécial du secrétaire général de l'ONU en RDC, ont dénoncé hier jeudi la condamnation à mort de trois civils et les nombreuses irrégularités qui ont entaché le procès par la cour militaire du Sud Kivu des assassins présumés de Serge Maïché, journaliste de Radio Capi, la radio de la MONUC. Et depuis Lausanne en Suisse, la Fondation Hirondelle, l'un des partenaires de la MONUC au sein de Radio Capi, progresse cette issue judiciaire. Elle appelle à poursuivre la recherche de la vérité et à mener une enquête sérieuse pour identifier les responsables de ce crime. La Fondation Hirondelle estime par ailleurs que le verdict de la cour d'appel du tribunal militaire de Bukavu doit être salué, dans la mesure où il prononce l'acquittement des deux prétendus commanditaires, Amikos et la victime, emprisonnés depuis plus de 10 mois et condamnés à mort sans preuve en première instance. Nous revenons dans ce studio. Bélard Mbouilly, bonsoir.
Bonsoir, Claude.
Vous êtes directeur général d'Africa TV, une chaîne de radio-télévision émettant par celle de Kinshasa. Votre réaction par rapport à ce verdict?
Un motif de satisfaction et deux inquiétudes. Le motif de satisfaction est dû au fait que, finalement, il y a deux personnes innocentes dont tout le monde s'était rendu compte de l'innocence dès le premier procès. Les deux amis de feu, notre collègue, confrère Serge Maïché, qui finalement ont été acquittés. Ils avaient vraiment été accusés à tort et cela créait vraiment le plafond dès le premier procès. Ils ont été acquittés, ben, c'est un motif de satisfaction. Il demeure quand même deux inquiétudes. La première, c'est que le procès n'est pas arrivé à faire la lumière sur le mobile du crime. Pour quelles raisons on a vraiment pu exécuter un journaliste qui a toujours fait son travail sans aucun reproche? Pour quelles raisons on a pu tuer un jeune homme à la fleur de l'âge, l'enlevant de, à la, comment dire, à la fraternité des siens? Ça, c'est la première inquiétude. La deuxième inquiétude, c'est que si la cour a pu établir que les trois condamnés méritaient vraiment une condamnation, bon, ce serait tant mieux, mais je suis personnellement, à titre vraiment personnel, opposé à la peine de mort. Je pense que la peine maximale qui devrait être administrée à des coupables devrait être plutôt la prison à perpétuité, si vraiment ils méritaient ça. Je suis vraiment foncièrement contre la peine de mort.
Merci beaucoup, Bélard Mbouilly. Nous avons également dans ce studio Albert Omba. Bonsoir.
Bonsoir, je connais.
Vous êtes journaliste au sein de l'hebdomadaire Numérica, paraissant à Kinshasa, mais vous prêtez également en tant que journaliste au sein de Tropicana FM, qui est né à partir de Kinshasa, qui fait partie du même groupe. Votre réaction par rapport au verdict de ce procès?
Bon, une réaction un peu timide, mais une satisfaction, comme vient de dire Bélard, parce qu'il y a quand même des innocents qui viennent de quitter les couloirs de la mort, des innocents qui parlent de fantaisie, des aveux incontrôlés, de certaines personnes ont pu passer plus de 10 mois dans des prisons inutilement. Mais le problème qui reste, c'est que les doutes persistent toujours sur ces crimes. Du fait que la seule piste existante, c'est l'arme qu'on a retrouvée. Et il fallait à tout prix faire une relation directe entre cette arme et l'assassinat, ce qui n'est pas une chose facile. Et la seule méthode qu'on devait utiliser, c'est de faire l'autopsie ou une analyse balistique qui pouvait permettre au moins de détecter faire une relation entre l'arme qu'on a retrouvée quelque part et le crime, parce qu'il n'y avait pas flagrance. Une autre inquiétude aussi, c'est au niveau de...
Il n'y avait pas flagrance, c'est-à-dire?
C'est-à-dire, ceux qui ont tiré, ils sont partis, mais est-ce que ce sont les mêmes gens? On a retrouvé, ceux qui ont mené l'enquête n'ont pas arrêté les gens sur les champs. C'est en menant à partir de l'arme qu'on a retrouvée chaud quelque part dans un camp militaire, qu'on a pu établir une relation avec le crime. Ce qui fait qu'il y a eu un temps mort le crime était commis à proximité d'un camp militaire. Et une question de, d'après ce qu'on a suivi, une quarantaine de minutes après, qu'il y a eu une réaction. Qu'il y a eu des coups de feu. Autant de coups de feu qu'on a tirés, mais aucune réaction immédiate dans un camp militaire, ce qui laisse perplexe aussi. Et il y a encore d'autres petites pistes, la piste militaire. Et nous savions que notre ami Serge avait des petits problèmes avant de mourir. Une semaine avant, il avait des petits accrochages par-ci par-là avec des hommes en uniforme. C'était aussi une piste à explorer. Et puis, un autre problème, c'est la motivation. Qu'est-ce qui a motivé ces gens à venir tirer sur Serge et laisser les deux autres? Donc, c'était un crime bien dirigé, passionnel, avec préméditation. Et il fallait qu'on retrouve les commanditaires, pas les exécutants qu'on a arrêtés. Autant qu'on n'a pas trouvé le commanditaire de ces crimes, donc, le dossier est encore ouvert.
Merci beaucoup, Albert Oumba. Crispin Maloula, bonsoir.
Bonsoir, Claude.
Vous êtes directeur de Radio Liberté Gemena et de Canal Congo Télévision Gemena dans la province de l'Équateur. Votre réaction, vous venez de suivre les réactions de nos deux confrères. Qu'est-ce que vous en dites également?
Merci bien, Claude. Heureusement que vous venez de corriger, je ne suis pas dans la province orientale, je suis dans la province de l'Équateur, à Gemena. S'agissant du dossier Serge Maesh, je commence d'abord par saluer la libération des amis et cousins à Serge, qui ont été détenus illégalement pendant plus ou moins 10 mois. Et je ne suis pas du tout d'accord avec la condamnation à mort des 3 autres. Je pense que c'est seulement un théâtre, comme l'a dit notre confrère. Ce théâtre consiste à étouffer la réalité qui est d'ailleurs à un plus haut niveau. Et même le vrai commanditaire qui se croit ne pas être connu répondra un jour. Écoutez Claude, je m'en vais vous dire que notre confrère Serge doit passer pour un héros. Il passera pour un héros le jour où la vérité triomphera. Je crois que nous ne manquerons pas de revenir au triste scénario de Lumumba. Voilà ce que j'avais à dire à propos de Serge Maesh.
Merci beaucoup. Je retiens de la part de vous tous que le vrai mobile du crime n'a pas été vraiment trouvé. Il y a aussi l'insatisfaction de Bella sur la peine de mort. Il est plutôt pour la prison à perpétuité. Et puis, certaines méthodes qui auraient permis de retrouver les criminels n'ont pas été utilisées, notamment l'analyse balistique et l'autopsie. Alors, et qu'est-ce qui, d'après vous, Bella Mbouyi, justifie l'insatisfaction manifestée par la communauté internationale et par les ONG de défense des droits de l'homme à propos de ce procès?
Il y a ce sentiment de l'inachevé. Ce sentiment de l'inachevé. Comme vient de le dire Crispin ainsi que Omba qui l'avait précédé, il y a un goût d'inachevé quelque part. C'est comme si nous avons tous la sensation, l'impression que le crime a été commandité par quelqu'un, un intouchable, un puissant ou des puissants que l'on veut garder, que l'on veut protéger, que l'on aimerait protéger. Donc, on a pu arrêter quelques exécutants, si tant est que c'est eux qui ont vraiment commis le crime, on les a condamnés, et ils, pour brouiller les pistes, ils ont dû dans un premier temps accuser des innocents qui n'avaient absolument rien à voir, puis ils se sont rétractés, puis ont commencé à plaider non coupables. Tout ça donne une confusion incroyable. En tout cas, ça laisse l'impression, franchement, qu'il y a des puissants, des intouchables, qui se tairent derrière ce crime, et qui, finalement, ne veulent pas être dénoncés. C'est vraiment l'impression que ça nous.
Merci Bélard. Albert Romba, vous partagez aussi le même point de vue?
Oui, inachevé, oui, mais moi je voudrais ajouter qu'il y avait quand même un travail qui a été fait dans la précipitation, du fait qu'un crime qui a été commis, un crime de cette taille, et on arrête le présumé d'assassin, et 24 ou 48 heures après, il y a un procès public. Donc on n'a pas eu le temps d'explorer toutes les pistes possibles, d'autant que Serge, le corps de Serge se trouvait encore à la morgue, on pouvait procéder à une autopsie pour déterminer, parce que le problème important ici, c'est l'arme. Il faut mettre une relation entre l'arme et le meurtre. Or, Tant qu'on n'a pas prouvé que la balle qui a tué Serge a quitté ces deux, les armes qui ont été trouvées, qui d'ailleurs ont été trafiquées, parce qu'on a vu qu'une des armes a été sciée, tout ça, donc il y avait intention de les détruire. Alors, il fallait à tout prix qu'on établisse qu'il y ait une relation, que les armes trouvées étaient réellement ces armes-là qui ont été utilisées. Au moins, on aurait avancé dans la piste. Et si les ONG et la communauté s'insurgent, c'est parce que la méthode utilisée, nous sommes au XXe siècle, il y a des méthodes quand même assez expérimentées, mais puisque, qui permettent aux juges d'apprécier un crime pour éviter une erreur judiciaire. Et mais toutes ces méthodes-là n'ont pas été, même les méthodes les plus élémentaires qui consistent à faire. Oui, même les méthodes les plus élémentaires qui consistent quand même à escaper une autopsie, c'est la moindre des choses. Quelqu'un qui est attaqué ne peut pas manquer une autopsie. Ça ne peut pas se faire.
Merci beaucoup. Nous allons terminer avec vous, ce dossier, Crispin Maloula. Donc, est-ce qu'on peut dire que le travail des journalistes reste encore dangereux en République démocratique du Congo?
Très très dangereux, surtout quand le journaliste doit correctement faire son travail, et quand il ne doit pas courir derrière les pistes de politiciens, et s'il veut vraiment satisfaire son public de la manière que lui recommande l'éthique et la déontologie de son métier, celui-là apparaît comme un journaliste dangereux pour ceux qui dirigent le pays. Moi je pense à mon humble avis, pour appuyer mon prédécesseur qui vient de passer tout à l'heure, il parle de relation entre l'arme et la cartouche. Je crois qu'il doit avoir pleinement raison, mais il y a un élément important. Parce que la personne qui a utilisé cette arme-là, il l'a tenue par ses mains. Il y a encore un autre examen important qu'on aurait pu examiner. Cet examen, c'est l'empreinte digitale. Les personnes qui sont condamnées là, et ce sont les mêmes personnes qui ont tenu cette arme. Moi, je dis que c'est un scénario qu'on ne prenne pas les Congolais pour de petits enfants, hein, parce que nous comprenons dès lors que si ce jugement n'a pas été pris au sérieux, parce que le magistrat là qui a instruit ce dossier, ils savent, ils ont des institutions, ce sont des juristes de formation, ils devaient minutieusement examiner le fait à partir de l'arme qu'ils auraient trouvée, des cartouches qui s'y trouvaient dedans, des empreintes digitales de personnes arrêtées. Et on aurait pu conclure, on aurait pu convaincre le public.
Crispin Maloula, mais pourquoi les personnes condamnées peuvent accepter la peine de mort tout en couvrant le véritable commanditaire de ce crime s'il s'avérait qu'ils ont été commandités par quelqu'un?
On ignore jusqu'à présent, Claude, si ces personnes acceptent. Parce que moi je m'aperçois que ces personnes sont les juges qui ont été exposées. Et parfois, elles n'ont pas de voix pour se défendre, même s'ils peuvent déclarer quoi que ce soit. Parfois, ces personnes qui sont commandées n'ont même pas posé l'acte. Peut-être qu'il y a des gens qui ont posé l'acte qu'on ne reconnaît pas jusqu'à présent. Et le vrai commanditaire n'a jamais été cité. Et je m'aperçois comme si cette justice-là est en train de subir une pression quelque part.
Merci beaucoup, Crispin Maloula. Je rappelle que vous êtes directeur de Radio Liberté Guémena et de Canal Congo Télévision Guémena dans la province de l'Équateur. Avant de clôturer ce premier thème, juste le temps de rappeler que hier jeudi au Bas-Congo, un autre verdict a été rendu. C'est celui que le tribunal de grande instance de Mbansangungu au Bas-Congo a rendu dans le cadre du procès de 22 adeptes de la secte politico-religieuse Bundia Congo. Trois d'entre eux ont été condamnés à mort. Quatre autres ont été acquittés et d'autres encore condamnés à des peines allant de 2 mois à 20 ans de servitude pénale. Nous y reviendrons probablement prochainement. Passons à notre second thème, que l'élection du porte-parole de l'opposition. C'est en principe aujourd'hui vendredi que les présidents des différents groupes parlementaires de l'opposition rencontrent au Palais du Peuple, ici à Kinshasa, le président de l'Assemblée nationale ainsi que celui du Sénat, avec comme seul point à l'ordre du jour fixer la date de l'élection du porte-parole de l'opposition. Toujours dans ce même chapitre, Joseph Olenankoy s'oppose à la nomination ou au choix d'un porte-parole de l'opposition. Selon le président des forces novatrices pour l'Union et la solidarité, FONUS, l'opposition étant plurielle, on ne peut pas la réduire à une personne qui parlerait en son nom. Cette position a été exprimée hier au cours d'une conférence de presse qu'il a animée en sa résidence. Joseph Olenankoy est au téléphone de notre confrère Askin Zidia Tayoro.
Ma position, elle est claire. Nous sommes des non-alignés. Nous, cette affaire de porte-parole, on n'est pas là-dedans. Et nous allons mobiliser l'ensemble de notre peuple de faire une vraie opposition pour sauver notre pays. Si tu m'as seul pays en Afrique où il y a un opposant qui ordonne tout et puis l'opposant. Avec une façon de lier les gens. Nous, nous avons lutté dans ce pays sur le multipartisme intégral. Moi, la loi créant mon parti politique, elle ne m'a pas dit qu'il y aurait un porte-parole qui serait au-dessus des chefs d'un parti. On ne peut pas se lancer dans les aventures comme ça. Ceux qui trouvent qu'aujourd'hui, ils doivent se battre sur ce poste de porte-parole-là. Mais ils ont leur parti. Pourquoi ils doivent faire tout pour parler au nom de tout le monde?
J'ai sous mes yeux le journal L'Avenir du mercredi 27 mai 2008 et à la une, on peut lire « Ce 27 mai 2008, Jean-Pierre Bemba à Kinshasa, pendant ce temps, l'opposition se déchire. » Béla Mbouyi, je reviens vers vous. Je rappelle que vous êtes directeur général d'Africa TV, une chaîne de radio-télévision émettant de Kinshasa. Les propos de Léon Koï confirment qu'il l'a eu du journal L'Avenir qu'on vient de lire.
Bon, le journal L'Avenir, ce qu'il a écrit n'engage que lui. Tout le monde sait que ce n'est pas exact, que Bemba ne vient pas ici à Kinshasa demain.
Mais quand il est faux, mais quand il dit que l'opposition se déchire.
Ils doivent avoir des raisons de donner des informations si mensongères à l'opinion. C'est bien de leur devoir. Ben, l'opinion se déchire, mais moi j'aimerais plutôt intervenir, l'opposition plutôt se déchire sur les propos de Joseph Oling Ankoï. Franchement, il était encore des propos dépassés de mode. Nous ne sommes plus à l'époque du président Mobutu. La loi a décidé d'organiser l'opposition de façon légale, c'est organisé. Donc il n'appartient à personne de dire non, il ne doit pas y avoir de porte-parole. La loi a dit ça, ça doit se faire. Pour le reste, quiconque veut ne pas se mettre sous le parapluie du porte-parole qui sera élu, bon, libre à lui. Cela veut dire. On est encore, il n'a aucun peuple qu'il va mobiliser ici parce que nous sommes allés aux élections. Il a aligné des candidats aux élections législatives nationales. Il connaît les résultats qu'il a reçus, ça veut dire deux députés seulement nationaux. Eh bien, il sait évaluer le rapport de force, il sait évaluer la force populaire qu'il a effectivement au niveau national, en voyant également son propre score aux élections présidentielles. Il a fait à peine 1%, donc un peu plus va mobiliser. La loi a décidé d'organiser l'opposition d'une façon légale, ben, cela sera. Il dit que le parti africain a déjà fait ça. Eh bien, la Mauritanie l'a fait. La Mauritanie a un porte-parole, un chef de file en plus. Un chef de file de l'opposition, légalement constitué, il est là. Voilà, c'est monsieur Mokhtar Ould Dada.
Merci beaucoup, Bénard. Albert Omba. Mais comment expliquer ce revirement de Joseph Oling Ankoï, alors que tout le monde sait qu'il était l'un des alliés de Jean-Pierre Bemba dans l'Union pour la Nation pendant la campagne électorale lors du deuxième tour?
Bon, c'est simple, parce que les politiciens congolais, ils sont très mouvants, très mouvants. Vous vous rendrez compte qu'après le dialogue intercongolais, pendant les dialogues intercongolais, quand il fallait trouver un représentant de l'opposition pour être désigné dans le groupe 1 plus 4, et c'est le groupe qui a posé tellement de problèmes jusqu'à ce que même le leader Maximo s'est vu dans l'obligation de se retirer. Et la suite, on la connaît. C'est-à-dire, ce que l'opposition doit savoir, qu'il y a une réglementation déjà. Avant que cette réglementation ne soit là, il y a un système qui classe les choses clairement, les élections. Il n'y a que deux camps. Celui qui gagne, il a la majorité. Celui qui ne gagne pas, il a la minorité, c'est-à-dire l'opposition. Tant que vous n'êtes pas dans le circuit des élections, on ne peut pas, on reste dans les groupes de pression, même si on est un parti politique. Parce qu'on n'a aucun représentant. Et on a canalisé l'opposition dans un schéma très clair, légal. Et tout le monde a suivi comment les deux chambres se sont époumonées pour faire une loi qui va gérer l'opposition. Et ils étaient mis d'accord sur le principe qu'il y aura un porte-parole. Parce que tout le monde ne peut pas parler.
Mais où sera alors la place de l'opposition non institutionnelle, par exemple l'UDPS qui est un parti politique important de l'opposition?
Non, la place est pour tout le monde. Une opposition non institutionnelle d'entrée de jeu, c'est une opposition qui n'est pas dans le combat. C'est-à-dire, quand on fait l'opposition, c'est pour avoir le pouvoir demain. Pour avoir le pouvoir, il faut passer par les élections. Quand vous dites, moi, je ne suis pas dans un schéma électif, c'est que vous avez
vous attendez peut-être un autre mandat pour suivre la compétition. À ce moment-là, vous n'avez pas le même chapitre que ceux qui se sont engagés et qui ont échoué. Maintenant, qui conteste ? C'est-à-dire, vous êtes dans la contestation, mais c'est un peu difficile. Hein. Mais la logique veut que l'opposition, c'est quoi ? C'est ceux qui ont échoué à un processus électoral. Et c'est celui-là qui se met à côté pour observer, critiquer celui qui a la majorité, qui gère, pour que demain lui puisse repasser de l'autre camp.
Allons directement à Guimena, dans la province de l'Équateur, d'où intervient notre confrère Christian Malula. Cette élection se passera à Kinshasa, à moins que Jean-Pierre Bemba ne décide de revenir au pays avant cette élection, ce qui n'est peut-être pas probable ces jours-ci. Si Jean-Pierre Bemba est élu par la majorité des députés, sénateurs, MLC et leurs alliés, va-t-il diriger cette opposition institutionnelle à partir de l'étranger?
Merci bien, mais cette question, vous l'auriez pu poser au gouvernement congolais. Et moi, je m'apprête ici de répondre en tant que journaliste et de la manière que je fais mes analyses. Excusez-moi d'abord, Claude, de revenir au premier point là, sur l'élection de porte-parole de l'opposition. Je salue parfaitement les déclarations de mon prédécesseur, celui qui vient de passer tout de suite. Je crois que pour ce point, il n'y a pas match. Il n'y a pas match, la loi est nette et claire. Il y a eu l'élection présidentielle, l'un a gagné, il prend la majorité, et le perdant, il prend la minorité, donc celui d'office, le chef de file de l'opposition. Si notre pays, bien qu'il n'y a pas d'automatisme politique en politique, si notre pays était ordonné, on ne ferait pas tout ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Pour moi, ce sont des manœuvres purement politiciennes qui ne riment à rien. Qu'on le veuille ou non, en dehors du président Joseph Kabila, il n'y a que Jean-Pierre Bemba qui arrive avec un grand nombre de députés dans le cadre de l'opposition. Il n'y a aucun parti qui peut prétendre avoir plus de députés que le MLC, en dehors de PPRD. Mais moi, je pense que, pour ce point-là, on ne peut même pas organiser des élections. C'est automatique. Mais parce que cela s'est passé, je vois des noms des candidats qui s'alignent. Il y a par exemple l'ancien vice-président Roubaix-Roy, que je respecte beaucoup, mais je pense que les donnes ne sont pas de la manière qu'il les envisage aujourd'hui. Ce que nous savons de lui, c'est qu'il n'est même pas dans l'opposition. Jusqu'à quand continuera-t-il à souffler le chaud et le froid? Nous avons besoin de vertébrés politiques,
merci,
des gens qui sauront dire non quand il le faut.
Crispin Malula, s'il te plaît, mais qu'est-ce que vous pensez de la proposition faite dernièrement par l'ancien vice-président Azarias Roubaix-Roy de la rotation autour de cette fonction de porte-parole de l'opposition?
Non mais les choses ne peuvent pas se passer de cette manière. Azarias Roubaix-Roy, tout ce qu'il aurait pu faire, parce qu'il a été candidat présidentiel, il pouvait présenter grand nombre de députés au Parlement pour qu'il occupe la place qu'il est en train d'envier aujourd'hui. Il a été éliminé au premier tour, il avait quel pourcentage? Il a aujourd'hui combien de députés?
Merci.
Et aujourd'hui, il revient avec quelle science là? Merci, merci.
Merci beaucoup, Christian Malula. Je reviens à vous, Bélard Mboui. Je rappelle que vous êtes directeur général d'Africa TV, une chaîne de radio-télévision émettant à partir de Kinshasa. Qu'est-ce que vous pensez de la proposition faite par l'ancien vice-président Azarias Roubaix-Roy de rotation autour de la fonction de porte-parole de l'opposition? Et même, vous avez assisté au lever de boucliers de partisans de Jean-Pierre Bemba qui ont même nié le fait que Azarias Roubaix-Roy appartenait à l'opposition.
Oui, disons ceci. D'emblée, je dirais que on ne peut pas empêcher quelqu'un de réfléchir. Sinon, on va établir une sorte de police de la pensée. Et là, nous sommes partis pour le système fasciste, vous voyez. Ce n'est pas ce que vraiment nous voulons dans notre pays. La proposition d'Azarias Roubaix-Roy de pouvoir instaurer la rotation à la tête de l'opposition, c'est une proposition défendable. Elle n'est peut-être pas la seule qui soit défendable. Bon, elle est tout à fait défendable par le fait qu'il part de l'idée que, contrairement à la majorité, où les gens adhèrent de façon volontaire, l'opposition, on s'y retrouve de façon un peu involontaire, parce qu'on a tous échoué aux élections. Alors, puisque c'est une sorte de mariage forcé, pour peut-être que tout le monde puisse se sentir concerné par l'affaire, faudrait-il alors instaurer une présidence rotative? C'est de là que vient cette idée-là. Elle est tout à fait défendable. Mais je ne comprends pas pourquoi il s'est levé de bouclier. C'est une proposition qu'il faudrait analyser vraiment froidement. Pour le reste, je vais quand même dire un petit mot. On conteste l'appartenance à l'opposition du Rassemblement Congolais pour la Démocratie, d'Avera Soubera, par le fait qu'il y a une alliance au niveau provincial avec l'ANP au Kassai-Occidental et dans le Bas-Congo. Mais ce que beaucoup de gens ne savent pas, c'est qu'une province comme le Kassai-Occidental, si je veux parler chiffres, au niveau des élections provinciales, l'Union pour la Nation tout entière avait 26 élus, et que leur CD en avait 7, et que l'AMP plus de coutumier était à 21. Vous voyez? Donc, il n'y a aucun groupe qui, à lui tout seul, pouvait avoir le gouvernorat de province. Pareil au Bas-Congo également. Alors, le RCD a proposé au MLC, d'abord, voilà, pouvons-nous faire un accord gagnant-gagnant, vous me laissez un côté, vous prenez l'autre côté. Le MLC a refusé. C'est en désespoir de cause que le CD est allé vers l'AMP. Sinon, si le CD n'était pas parti vers l'AMP, on allait faire comment? Il n'y avait aucun groupe qui pouvait gagner la province. On aurait bloqué toutes les deux provinces-là comme ça.
Merci beaucoup, Bédambou. Je rappelle que votre chaîne de télévision Africa TV, à moins que je ne me trompe, est proche du RCD.
Ça n'a rien à voir avec le CD du tout. C'est une chaîne de télévision qui appartient à quatre associés, deux journalistes, deux hommes d'affaires. Voilà.
Merci beaucoup.
Parmi lesquels il n'y a pas Adair Soubera, il est avocat.
Merci pour cette précision. Adair Omba, on va terminer avec vous rapidement. Cette opposition qui n'arrive pas à se mettre d'accord autour d'un seul nom, c'est quand même... est-ce que c'est l'expression démocratique, comme vient de le dire Bélan Mbouyi, ou c'est une situation anormale?
Non, c'est la pluralité, parce qu'il y a diverses opinions qui s'expriment. Là, il y a la liberté d'expression au niveau de l'opposition. C'est qu'il faut, ils doivent concilier, parce que autant d'idées, autant de solutions aussi. Mais dire aujourd'hui que l'RCD n'est pas dans l'opposition, ça c'est faux. Donc nos amis de MLC, malgré qu'ils ont tout ce qui est comme avantage aujourd'hui, pour que leur leader puisse passer comme responsable de l'opposition, porte-parole, il y a lieu de se refroidir un peu et de prendre en considération tout ce qu'il y a comme conseil et proposition des autres. Mais commencer à critiquer tel parce qu'il n'est pas ceci, non. Tout le monde sait que l'RCD est dans l'opposition. Mais aujourd'hui, il y a l'opposition.
C'est quand même contesté. Hein,
non. Si je prends le cas du gouvernorat, l'MLC gère aujourd'hui le gouvernorat de l'Équateur. Alors, le gouvernement provincial de l'Équateur, la majorité, le pouvoir, c'est qui? C'est l'MLC. L'opposition, c'est le PPRD et consorts, AMP. Et cela veut dire que non, aujourd'hui, l'MLC est allié au gouvernement. Non, il y a l'opposition à deux échelons. Il y a le gouvernement central. Si on avait un membre du RCD qui était dans le gouvernement central, dans les affaires, à ce moment-là, ça serait autrement. Mais aujourd'hui, tout le monde connaît qu'au niveau des alliances au Parlement, l'RCD est dans l'opposition. Au niveau de la gestion de la chose publique, il n'y a aucun membre de l'RCD qui gère au niveau du gouvernement. Aucun ministre, aucun vice-ministre de l'RCD.
Mais dans les provinces, le RCD a un vice-gouverneur au niveau de la province du Bas-Congo, le RCD a un gouverneur au niveau de la province du Kassai occidental, et ils ont également un ministre provincial à Kinshasa, en la personne de M. Tabouley.
Oui, mais c'est parce que nous avons dit l'opposition à deux niveaux. Il y a un niveau central et un niveau provincial. C'est lui qui a le pouvoir, c'est-à-dire la majorité au niveau provincial, c'est lui qui gagne les élections. Je prends le cas de l'Équateur pour expliquer que celui-là. À l'Équateur, l'MLC n'est pas dans le gouvernement provincial, l'MLC n'est pas dans l'opposition. C'est l'MLC qui gère. Tandis que c'est l'AMP qui est dans l'opposition parce qu'il est minoritaire.
Mais ils ne sont pas passés, ils n'ont pas eu ce gouvernement parce qu'ils ont fait alliance avec l'AMP, mais c'est parce qu'ils ont eu une majorité au niveau de l'Assemblée provinciale de l'Équateur. Est-ce que ce n'est pas différent, ces situations?
C'est une alliance très insignifiante, très 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 insignifiante.
Merci beaucoup, Albert Omba. Nous allons passer à notre troisième et dernier thème, que l'examen cette semaine à l'Assemblée nationale du rapport d'enquête sur la spoliation ou détournement des maisons et terrains de l'État à des fins privées, notamment de quelques maisons et terrains de l'État ici à Kinshasa. Il s'agit notamment du terrain appartenant à l'Institut de la Gare, à l'Institut de la Gombe, à l'Agence congolaise de presse, ACP, et à l'ex-cimetière de Kasavubu. Résumé de la plénière de lundi dernier qui a statué sur cette question avec notre confrère Jeff Ngoy qui était sur place au Palais du Peuple.
Premier bien spolié, le terrain abritant l'ex-cimetière de la commune de Kasavubu. La commission condamne l'attribution irrégulière et abusive d'un contrat de concession perpétuelle à une personne morale de droit congolais en lieu et place d'un contrat de concession ordinaire. Ensuite, l'immeuble de l'Agence congolaise de presse, où la commission stigmatise le refus de M. Hassan Daklala, sujet libanais, de communiquer les éléments techniques du dossier. Autre bien, l'Athénée de la gare. Les députés soulignent la cession irrégulière de la gestion de l'Athénée au réseau des écoles conventionnelles catholiques par que le gouverneur Denis Sakombi n'en ayant pas qualité. Enfin, le dernier patrimoine de l'État, l'Institut de la Gombe. Ici, les députés constatent l'abus de pouvoir de l'ancien ministre de l'EPSP, Paul Moussakiri, qui a attribué une portion de terre à une ASBL. En conséquence, les députés déclarent tous ces contrats nuls et de nul effet et demandent des sanctions contre les personnes qui se sont compromises dans cette mafia. Dans la foulée, deux sujets libanais, en l'occurrence Hassan et Abdoul, sont déclarés personnes non grata en RDC. Toutes ces recommandations feront l'objet d'un suivi par l'Assemblée nationale pour s'assurer de leur application par le gouvernement, a conclu Pital Kamere.
Merci beaucoup, Jeff Ngoy. Nous allons directement dans la province de l'Équateur. Christian Malula, est-ce des recommandations de plus qui ne seront pas respectées mais placées dans les tiroirs avant que personne ne s'en souvienne?
Oui, Claude, je commence d'abord à me poser la question de savoir s'il y a vraiment un gouvernement dans ce pays. Et je m'excuse de cette question.
C'est-à-dire?
Mais quand on voit tout le bien spolié, les sols, les sous-sols, la forêt, et même les concessions réservées, pour les sportifs vendus, qu'est-ce qui va rester au Congolais? Le vendeur, son sens de quiétude, il dit qu'il pouvait tuer Claude, il n'y aurait aucun politicien dans ce pays. Mais, on ne se décourage pas. Si le parlementaire qui nous représente a entendu nos cris et s'apprête à sauver ce qui reste, c'est une chose. Et nous encourageons cela. D'ailleurs, il faut illustrer ce que je vous ai dit par un exemple de Mena où je suis. Intérêt de l'État appartenant à l'éducation, avec un bâtiment en chantier, si vous a été vendu à un médecin. Le proverbe, le sous-proverbe, inspecteur et même le préfet de l'Athénée, tout crié. Mais dites-moi, Claude, qui doit attendre leur cri? Il y a même quelques ministres qui ici chez nous, même les plus concernés, bien que ce soit du dossier, ils donnent carrément les langues aux champs. Moi, je dis qu'il y a intérêt de mener vraiment ces investigations à bout, de manière que ce qui appartient, que ce soit concession, que ce soit sol, que ce soit bâtiment, soit restitué à l'État.
Merci beaucoup, Christian Malula. Bélard Mbouillé, quel sens donnez-vous aux recommandations sorties de cette plénière de l'Assemblée nationale? L'une des recommandations parle de la résiliation de tous les contrats irréguliers. Et on sait que sûrement certains hommes forts ou certains hommes puissants de ce pays ont acquis également ce genre de terrain et maison de l'État. Est-ce que vous donnez, quelle chance donnez-vous à...
Je ne donne presque pas de sens à ces résolutions, connaissant comment fonctionne notre pays. Voilà.
Donc c'est du bruit pour rien.
Bon, peut-être pas pour rien, disons, pour presque pas grand-chose, disons. Ce qui est vrai, c'est qu'on va résilier certains contrats avec des commerçants asiatiques, libanais, pakistanais ou iraniens et tout ça.
Mais pas des Congolais.
Des Congolais, en tout cas, les puissants, on ne touchera pas, vraiment, excusez-moi, on ne touchera pas. Et il n'y aura surtout aucune sanction contre les anciens ministres qui ont fait ceci ou cela. Il n'y aura rien parce qu'il n'y a jamais rien eu par le passé. Et aujourd'hui, il n'y aura non plus rien. Regardez dans notre ville de Kinshasa ici. Le gouverneur a dit qu'il allait détruire les concessions anarchiques. Oui, il est allé détruire le petit faible congolais. Donc, il s'est agi de détruire derrière le palais du peuple, là où des puissants ont acheté des maisons illégalement. Voilà. l'opération s'est arrêtée. Regardez au Kassai occidental, il y avait un gouverneur qui disait, voilà, il a récupéré les maisons des tasses poliées et tout ça. Il était même allé, à l'époque, déloger son président de l'Assemblée provinciale. Aujourd'hui, où est-ce qu'il en est? Nulle part. Ses propres ministres sont obligés de louer des maisons pour habiter. Donc, c'est un peu une sorte de théâtre. Je ne crois pas que ce pays, avec ce régime-ci, on peut arriver vraiment à sanctionner les coupables, surtout lorsqu'ils sont une certaine puissance politique. Je ne crois pas du tout. C'est du théâtre, ça.
Albert Omba, vous êtes journaliste de Tropicana FM et de l'hebdomadaire Numérica. Est-ce que vous partagez ce pessimisme de Bella Mbuyi, alors que le président de la République, au début de son mandat, avait déclaré que les portes de la prison seraient ouvertes pour tous ceux qui sont surpris dans des délits assez graves?
Oui, bon, c'est comme elle dit, Bella, c'est difficile, mon frère. Nous avons vu, au début de ce gouvernement, il y a eu une commission qui devait faire l'inventaire de tous les biens de l'État spoliés à travers la République. Et où en est-on? Quelle était la finalité de cette commission? Jusque-là, on n'en parle plus. Or, je vais plus loin. Je vais à la commission des biens mal acquis de la Conférence nationale souveraine. Les documents sont là, avec tout ce qui est. Et tout le monde qui m'écoute maintenant sait, à chaque coin de la ville de Kinshasa ou de chaque ville de l'intérieur, il y a une portion de terre de la République qui a été vendue.
Ou déclarer bien son maître pour voilà. Le rendre facilement.
Je prends un cas précis. Il y a eu même dernièrement, l'on a failli avoir des problèmes. Il y a des maisons au niveau de l'IMT qui ont été vendues. Et il y a eu même un jugement qui a accordé la propriété à certains caciques parce qu'ils ont trouvé le bien 100 mètres. 12 villas construites par l'ONATRA 58. Mais, comme il marquait peut-être un document à gauche et à droite, on dit non. De bien s'en mettre, et on fait un jugement.
Mais pourquoi on ne punit pas les gens, les conservateurs qui signent pour vendre ces biens de l'État? Souvent, on va détruire les maisons des personnes peu puissantes, comme vient de le déclarer Bella Mbuyi, mais les gens qui signent pour vendre ces biens de l'État, pourquoi on ne leur fait rien?
Non, il y a deux choses. Je prends le cas de l'Athénée. Il y a quelqu'un qui a levé la voix à l'époque, il a été arrêté. Et là, il a fait la prison, parce qu'il a, le premier à dénoncer, je ne peux pas dire son nom ici, tout le monde le connaît, il a fait la prison parce qu'il a dénoncé qu'il y a des individus qui ont construit dans la concession de l'Athénée. Alors, vous croyez qu'on peut, à quel niveau on peut intervenir? Ceux qui donnent la terre, et surtout ceux qui prennent cette terre-là, ce sont des puissants, alors personne ne peut les toucher.
Crispin Maloula, mais qu'est-ce que l'État propose, notamment pour les cimetières qui doivent être désaffectés, je pense, si je ne me trompe pas, c'est après 50 ans, qu'est-ce que l'État propose pour ces genres de terrains? Est-ce qu'il faudrait les laisser comme ça, ou quand même les mettre en valeur?
Mais c'est pourquoi je dis au départ, Claude, que les espaces ouverts que nous avions, hein, tout ce qui appartenait à l'État, hein, tous ces espaces-là sont spoliés aujourd'hui. Hein, je pense qu'avant de répondre à la question que vous me posez là, si ces actions doivent se poursuivre normalement, c'est aussi l'occasion que les gouvernements congolais puissent rétribuer ou restituer les maisons des particuliers qui l'occupent illégalement depuis un certain temps. Personnes qui ont acheté dans la voie la plus légale et qui détiennent des documents officiels, des documents d'appartenance de toutes ces maisons. Sur ces maisons aujourd'hui, aucun jugement préalable, sans aucun document, ont été récupérés par le pouvoir en place et sont occupés par les puissants comme mes prédécesseurs. Et moi je pense qu'aujourd'hui, il y a tout intérêt. Parce qu'hier nous étions à 30 millions, 40 millions, aujourd'hui nous sommes à 60 millions, demain nous serons à quel taux d'accroissement? Et puis plus la population s'accroît, il fait passer également un taux de mortalité. Donc il y a tout intérêt que nous puissions récupérer tout intérêt spolié de manière à prévenir par rapport avec la question que vous me posez là.
Merci beaucoup, Christian Maloula. Nous allons rapidement, Bélamboui, si vous voulez ajouter quelque chose, cela fait un mot.
Oui, deux petites choses là d'abord. Vous avez posé la question à Albert tout à l'heure en disant que le chef de l'État avait dit à l'inauguration de son mandat actuel que les portes de prison étaient ouvertes pour tous ceux qui vont toucher au bien de l'État. Mais il ne donne pas le bon exemple. Lui-même, lorsque finalement il s'est nommé à la tête de son propre parti politique, le PPRD, dont il est l'initiateur, un homme, M. Bouchab, qui a été viré du cabinet, de son propre cabinet de la présidence de la République, pour avoir piqué une partie de la créance de la SNEL de 32 millions de dollars pendant la transition en janvier 2004. Ce n'est pas un bon modèle que le président Kabila donne aux Congolais. Donc, ce discours-là, c'est pour la communication extérieure et il n'a aucune prise sur la réalité des Congolais de ce pays. Merci.
Merci beaucoup. C'est par vos propos que nous terminons cette émission. Merci à Bélamboui, merci à Albert Omba et à Christian Maloula. Guima était à la réalisation et Jean-Claude aussi à la mise en onde. Au nom de Jean-Claude Toumba-Kamanga, Guy Roger Nyampala, Kéline Kouté et Guy Maté, je vous dis bon week-end et à lundi pour une nouvelle émission.
Okapi.